histoire de s'adapter. Ressources en eau, quand les crises s'ancrent dans le temps.
Je m'appelle Camille, j'ai 30 ans et j'habite à un petit village du nord de la France. Depuis quelques temps, j'ai décidé de comprendre et d'aller rencontrer celles et ceux qui s'adaptent et qui dessinent des territoires plus résilients face aux risques climatiques. Dans chacun des épisodes, je vous propose de questionner l'une des 5 grandes vulnérabilités de la région. Aujourd'hui, je souhaite que nous nous penchions sur la ressource en eau. Au bord du terrain de la maison où j'ai grandi, coule un petit ruisseau. Lorsque j'étais enfant, avec mes frères et sœurs, nous passions des heures à construire des barrages et à capturer des petites grenouilles. Nous enfilions des bottes trop grandes pour nous et arpentions de long en large le lit du ruisseau. Et de temps en temps, nos pieds s'enfonçaient dans la vase et restaient coincés au fond de l'eau dans un bruit de succion. Parfois, ma mère déposait dans l'eau une petite pompe pour alimenter son potager et essayait de me faire rire en s'appliquant à arroser mon frère bien plus que les tomates. Cet été pour la première fois, ma mère n'a pas récolté de tomates. Cet été pour la première fois, le ruisseau a décidé de ne plus couler.
C'est le record de la plus longue sécheresse jamais enregistrée par Météo France. La Loire atteint ses plus bas niveaux. Ici aussi à Toulouse, on peut désormais marcher sur le lit de la Garonne.
Pour la première fois, les maires expliquent qu'ils ne peuvent plus accueillir de nouveaux arrivants et fournir de l'eau à toute la population. Ils ont décidé de geler les nouvelles demandes de permis de construire pendant les 4 prochaines années.
Notre base de données révèle en effet une pollution d'une ampleur tout simplement inouïe. C'est toute la région des Hauts-de-France avec ses 5 départements qui est impactée. Au total, au moins 49% des réseaux de la région sont touchés.
8 mm d'eau sont tombés à Lille en février, alors qu'habituellement, c'est 6 fois plus.
C'est une catastrophe, quoi, parce que le déficit est très important. On est entre 80 et 90% de déficit pluviométrique sur l'ensemble des Hauts-de-France.
Vous avez pris un arrêté pour placer le département du Nord en vigilance sécheresse. Le préfet du Pas-de-Calais a embrayé ensuite. À quel niveau d'alerte sommes-nous aujourd'hui, au mois d'avril ?
Vigilance, c'est vigilance. C'est-à-dire qu'il s'agit pour le préfet du Nord et le préfet du Pas-de-Calais d'adresser un message simple à tous les usagers de l'eau. Attention.
C'est vrai que les alertes sécheresse sont de plus en plus fréquentes ces derniers temps, mais je n'y avais jamais vraiment prêté attention. Après tout, l'eau coule de mon robinet. Mais cette année, les alertes ont commencé tôt, vraiment tôt. On a même parlé de sécheresse hivernale, je savais même pas que c'était possible, et encore moins ici, dans le nord de la France. Est-ce que l'eau commence à manquer ici, dans les Hauts-de-France? Ou en tout cas, l'eau de bonne qualité? Est-ce qu'un jour, l'eau de notre robinet ne sera plus potable? Et quelles seront les conséquences de cette rareté sur nos vies, sur les activités économiques, sur l'agriculture? Est-ce que le ruisseau du bout du jardin de mon enfance se remettra à couler en été? Est-ce que les grenouilles reviendront?
En fait, on est rentré dans une nouvelle ère qui fait que l'eau n'est plus une ressource inépuisable. On est sur une quantité finie d'eau. De ce fait, il faut pouvoir la préserver. Et donc la préserver, c'est à la fois effectivement par rapport à sa qualité, mais c'est aussi par rapport à sa quantité.
Isabelle Matikowski est directrice générale adjointe à l'agence de l'eau Artois Picardie.
530 millions de mètres cubes sont prélevés chaque année dans nos nappes d'eau souterraines. On en a à peu près 56% pour la partie eau potable des populations, 28% pour l'industrie et 15% pour l'agriculture. Sur ce dernier poste, notamment pour l'activité agricole, on a eu une très forte augmentation sur les 4-5 dernières années, doublé, voire triplé sur certains secteurs. Et on est aussi soumis à une très forte saisonnalité par rapport à l'activité agricole. Quand il y a une demande plus forte de besoins en eau et en parallèle, je veux dire, une recharge moins bonne de ces nappes d'eau souterraines, puisqu'effectivement, avec les phénomènes de changement climatique, nous avons des pluies qu'on appelle moins utiles, c'est-à-dire en quantité, une pluviométrie à peu près équivalente, mais répartie différemment sur l'année et dans le temps, donc beaucoup plus importante à certains moments, qui fait qu'elle a beaucoup plus de mal à s'infiltrer. Donc nous avons une recharge du coup de nos nappes d'eau souterraines beaucoup moins bonne. Notre réservoir en eau souterraine, en quelque sorte, est moins important. Donc du coup, nous devons anticiper et la préserver le plus possible par rapport à l'activité, notamment estivale, pour tous les usages. Nous avons lancé une étude structurelle sur le quantitatif en 2019, donc avec la DREAL. Cette étude montre que les deux tiers du territoire sont en risque de tension. Cette étude se base à la fois sur des hypothèses de changement climatique, de capacité de recharge des nappes d'eau souterraines, mais aussi d'évolution de la demande en eau. C'est vrai que c'est un sujet nouveau qui s'invite à la table aujourd'hui, le quantitatif. Alors, quand je dis aujourd'hui, c'est vrai que sur les 5 dernières années, on a eu 4 années de sécheresse, et l'année 2022 a été un peu une année déclencheuse de prise de conscience, notamment politique, sur ce sujet-là. Et donc aujourd'hui, nous commençons à connaître des tensions sur la ressource en eau d'un point de vue quantitatif, y compris dans le nord de la France. Alors, le bassin Artois-Picardie comprend 22% de masse d'eau en bon état. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une masse d'eau ? En fait, une masse d'eau, c'est un cours d'eau, c'est une masse d'eau souterraine, c'est un plan d'eau. Donc, nous sommes à 22% de masse d'eau en bon état pour une moyenne nationale de 44%. Alors, ce n'est pas parce qu'on a moins bien travaillé dans notre bassin ou que les acteurs ont moins bien travaillé dans notre bassin qu'ailleurs, mais c'est parce qu'on a des conditions géographiques, historique et de développement différentes, c'est-à-dire qu'on a un tout petit bassin en termes de superficie avec des pressions très importantes, une pression urbaine, 4,3 millions d'habitants sur le bassin, une pression industrielle forte, une pression agricole également, des pressions agricoles importantes avec des logiques d'agriculture industrielle et un bassin plat, très plat, qui ne permet pas d'auto-épuration naturelle. Notre objectif à 2027, donc dans le cadre de la planification du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, est de 50%. Donc ce qui veut dire qu'en termes de qualité des eaux, en termes d'état qualitatif, nous devons aller 3 fois plus vite. Il y a également un lien entre le sujet quantitatif et qualitatif. Qui dit moins d'eau, alors que ce soit dans les nappes d'eau souterraines ou même sur les masses d'eau de surface, avec une quantité de pollution ou de pression équivalente, fait que les concentrations augmentent mathématiquement et que du coup, l'état qualitatif va s'en ressentir.
La situation est déjà critique. Je n'en avais pas conscience. L'eau vient déjà à manquer. Et il ne s'agit pas d'une crise ponctuelle ou d'une histoire de potager familial. Il s'agit d'une nouvelle donne hydrologique à laquelle il faut s'adapter.
Quand vous parlez sécheresse, le premier mot qui vient quand vous demandez à quelqu'un en France, ça ne va pas être région Hauts-de-France. On avait plutôt une position d'abondance très confortable. Et en 2019, on s'est retrouvé avec des tensions qui n'avaient encore jamais été là.
Sarah Duvernet est directrice de projet au CIMSAGEL, le syndicat mixte pour le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Lys.
En 2022 en particulier, comme il a fait très chaud, la consommation en eau des ménages a augmenté dramatiquement. Ça a été loin d'être anecdotique, avec des augmentations jusqu'à 15% en fait, des besoins en eau des zones urbaines. Sur la consommation en eau et les besoins en eau des industries, alors on a à la fois une augmentation des fois conjoncturelle. Les usines qui produisent tout ce qui est soda, boissons fraîches, vont avoir un pic de production aux périodes chaudes parce que c'est là où on va avoir le besoin d'en vendre le plus. Et à côté de ça, quand on a des arrêtés sécheresse, les activités économiques sont les premières auxquelles on demande de réduire leur consommation. Pour les activités agricoles, qui sont également une activité économique, on leur demande également de réduire l'irrigation puis de l'arrêter. Sur les écosystèmes, donc on a à la fois un impact avec un changement des fois des espèces qui vont être sur place parce que les niveaux d'eau vont baisser et qu'on va avoir un stress lié à la chaleur au niveau des écosystèmes. On va avoir également une tendance à l'assèchement des milieux aquatiques, assèchement lié à la chaleur mais aussi lié aux prélèvements plus importants qui vont avoir lieu sur le milieu. On a à la fois les prélèvements autorisés et puis les prélèvements sauvages qui vont faire qu'il y aura beaucoup moins d'eau qui va arriver dans les écosystèmes. Si vous asséchez, toute la faune et la flore va simplement mourir. On a eu le cas de figure sur un certain nombre de, de petits cours d'eau qui se sont retrouvés à sec. Et effectivement, au niveau biodiversité, c'est dramatique.
Nous avons la chance d'être dans une situation où nous pouvons encore anticiper sur des conflits ou des crises liées à la gestion de la ressource en termes quantitatifs de l'eau. Pour autant, je veux dire, il faut agir vite. Ces sujets de moindre disponibilité de la ressource en eau arrivent beaucoup plus vite qu'on ne l'imaginait.
Il y a un certain nombre de prises d'eau qui sont entre guillemets autorisées, qui sont légales. Et après, il y en a beaucoup de sauvages. Donc là, lorsqu'on s'est mis à avoir justement des restrictions, des autorisations de prélever, avec des demandes de réduire de 50% ou d'arrêter de prélever sur des secteurs, en fait, on s'est mis à avoir des prélèvements sauvages qui ont foisonné, avec des fois même des prélèvements qui se faisaient des va-et-vient des deux côtés de la frontière, des tonnes à eau qui venaient qui traversaient la frontière pour venir se servir et puis qui repartaient pour pouvoir alimenter. À partir du moment finalement où on se retrouve avec le gagne-pain de quelqu'un qui est en jeu, s'il n'y a pas de solution qui a été trouvée, s'il n'y a pas eu tout un travail en amont, le désespoir fait que les gens vont aller chercher l'eau là où ils la voient, et quelles qu'en soient les conséquences. Là, les tensions qu'il y a actuellement sur la ressource en eau, elles nécessitent effectivement de changer de façon de réfléchir à la ressource en eau. Chacun, en fait, a sa vision très localisée de son besoin, et on a besoin d'avoir vraiment une vision très claire de quels sont réellement les besoins, à la fois pour l'activité humaine, mais aussi pour les milieux. Parce que finalement, les milieux sont un peu souvent les grands oubliés, hein, mais finalement, si les milieux sont en mauvais état, ça sera toute la vie humaine qui va être impactée. Donc d'un point de vue même profondément égoïste, on doit absolument, nécessairement s'occuper des milieux. En termes de projet de territoire, on a besoin que tous les territoires se dotent d'un projet de répartition et de sauvegarde de la ressource en eau. Déjà de se mettre d'accord sur la méthode, se mettre d'accord sur le planning, se mettre d'accord sur comment on veut travailler ensemble pour élaborer ce projet. Parce qu'élaborer un projet de territoire pour la ressource en eau, ça demande de très bonnes connaissances et ça demande de laisser le temps à la concertation.
Je le comprends. Tout le monde cherche à répondre à des besoins croissants dans un contexte de changement climatique. Parce qu'il fait plus chaud, certains se rafraîchissent en se trempant dans l'eau. Parce qu'il pleut moins, d'autres arrosent plus leurs champs. D'autres encore ont besoin de plus rafraîchir leurs machines industrielles. La nouvelle donne climatique impose de nouveaux besoins, mais elle ancre aussi une nouvelle réalité hydrique. Et sans prise de conscience et sans coordination, la somme de ces actions isolées menace à court terme la disponibilité globale de l'eau. Et cela attise les tensions. L'état de la ressource en eau illustre la tragédie des communs. Ce que nous considérions jusqu'alors comme un bien commun et une ressource infinie en vient à être aujourd'hui surexploité et risque de s'épuiser si elle n'est pas gérée collectivement. Alors comment est-ce que la gestion de l'eau peut s'organiser de façon pacifiée ?
L'action de l'Agence de l'eau, c'est justement d'accompagner l'ensemble des acteurs pour agir et éviter les risques de conflits importants d'usage par rapport à la ressource en eau. L'essence même des agences de l'eau, c'est d'être sur une logique de solidarité, à la fois de solidarité amont-aval, notamment de travailler justement dans cette logique du fil de l'eau, pour éviter que l'amont, par exemple, mettra en place des pratiques qui pourraient avoir des conséquences importantes sur l'aval, qui disposerait par exemple d'une moindre quantité d'eau, notamment en eau de surface. Mais c'est également une logique de solidarité entre les usages.
L'organisation et la coopération sont donc la clé de voûte de l'adaptation au changement climatique. Mais concrètement, comment est-ce que l'on s'adapte ? Quelles sont les actions concrètes à mettre en place ?
C'est d'une part de favoriser l'infiltration au maximum, que ce soit dans le milieu urbain, notamment en créant des villes éponges et en désimperméabilisant un maximum, ou dans le milieu rural, en travaillant sur les pratiques agricoles pour leur permettre de garder un maximum d'eau par rapport à la croissance des plantes. Tout le monde doit aller vers une logique de sobriété et d'optimisation de sa consommation en ressources en eau. Ça peut aller aussi jusqu'à la création de nouvelles filières en changeant les cultures et d'aller sur des cultures beaucoup moins gourmandes en eau, Donc là, on est sur des sujets quand même structurellement plus importants, qui prennent 4, 5 ans, 6 ans, et une prise de risque d'ailleurs pour les acteurs agricoles, et d'évolution effectivement radicale de leur culture, et du coup aussi de créer les filières économiques en aval qui vont aussi avec l'évolution de ces cultures. Nous souhaitons avoir un impact très fort, une action très forte sur ces territoires sensibles par rapport à la ressource en eau pour limiter la quantité d'intrants, qu'elle soit d'origine agricole ou d'origine urbaine, hein, puisqu'on peut aussi être confronté par exemple à des problèmes de branchement d'eau, des branchements de réseaux d'assainissement ou de l'assainissement d'eau collectif en mauvaise conformité, ou que ce soit par rapport à des pressions industrielles ponctuelles. Voilà, notre objectif, c'est vraiment d'être dans la prévention et de mettre en place des plans d'action liés à la prévention des pollutions sur ces aires de captage, plutôt que d'être sur des logiques curatives et un peu d'aller toujours vers une fuite en avant sur ces sujets.
On intervient dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, en donnant des fois des avis sur les projets d'aménagement. Donc on essaye justement de conseiller dans le sens de la désimperméabilisation et du fait d'utiliser des techniques alternatives pour la gestion des eaux pluviales. On a donc des actions qui vont être lancées en termes d'animation agricole avec la Chambre d'agriculture pour essayer d'encourager à la mise en place d'une agriculture plus respectueuse de la ressource en eau, donc avec en particulier les techniques de conservation des sols qui permettent finalement, en travaillant moins les sols, d'avoir des besoins en eau réduits et d'avoir moins de ruissellement et donc moins d'impact également, moins de transfert des polluants quand ils sont mis au niveau des parcelles. Le troisième volet, c'est vraiment le volet de la restauration des milieux. Donc là, on a tout un travail en cours sur la restauration des vallées alluviales dans leur ensemble, avec cette idée de pouvoir se délimiter en fait les secteurs sur lesquels il faudrait laisser les espaces qui existent encore sans les impacter et sur lesquels on pourrait restaurer, reconnecter des anciennes, ce qu'on appelle des annexes alluviales. Hein. C'est les secteurs dans lesquels l'eau va avoir tendance à aller à partir d'un certain niveau. L'eau va avoir des zones sur lesquelles elle va se mettre temporairement. Ça crée des zones humides très intéressantes.
Je disais l'importance effectivement de s'appuyer sur les éléments naturels comme les zones humides, les marais, qui rendent énormément de services écosystémiques, que ce soit par rapport à leur capacité de rétention d'eau, mais également de filtrer l'eau, de l'épurer en quelque sorte, avant qu'elle s'infiltre dans les sols. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle toutes les solutions fondées sur la nature et toute l'importance justement à donner à ces solutions. Je parlais des zones humides ou des marais ou des tourbières par exemple, mais ça peut être aussi des aménagements de haies par exemple dans les espaces agricoles ou des aménagements de fossés enherbés pour récupérer les eaux pluviales par exemple dans des quartiers.
On a déjà commencé par travailler sur notre propre structure. Donc on a globalement un pôle milieu aquatique, un pôle ressources et un pôle inondation. Et ce travail en transversalité fait que on essaye de partager les projets des uns et des autres pour pouvoir en fait avoir un regard différent des collègues sur chaque projet. Par exemple, c'était au niveau de zones d'expansion de crues artificielles, donc des secteurs sur lesquels on voulait retenir de l'eau pour protéger contre les inondations. Et sur ces secteurs-là, bah voilà, on avait une vision inondation en se disant bah voilà, on va essayer d'avoir l'impact minimum sur les milieux aquatiques. Donc ça, c'était la posture qu'on avait. Voilà, il y a 2-3 ans, et qui est une posture assez répandue. Et donc là, l'idée, ça a été de voir ça de manière différente, se dire, ben voilà, j'ai un budget, j'ai globalement un site, je sais que je veux faire quelque chose là, j'ai besoin de lutter contre les inondations. Ben, comment je pourrais trouver une solution qui, à la fois, lutte contre les inondations, mais permette de préserver la ressource en eau, et qui permette également de restaurer les milieux. Et donc du coup, d'essayer de se poser la question différemment, de se dire, ben voilà, j'ai un objectif, mais je veux essayer de viser 3 objectifs et pas un seul objectif, et de se poser la question dans tous les programmes. Et ça a le gros avantage de permettre finalement d'avancer sur la ressource, même si on n'est qu'en phase d'élaboration du programme territorialisé de gestion de l'eau.
Les crises se sont ancrées dans le temps. Et ce n'est plus de gestion de crise dont nous avons besoin, mais de gestion courante. C'est ce que je comprends au contact de Sarah et Isabelle. La situation que nous connaissons est une nouvelle réalité hydrique à laquelle il faut s'adapter. Et nous pouvons nous y adapter car les solutions existent et nous les connaissons. Ces solutions sont complexes car elles nous obligent à repenser le rapport que nous entretenons avec la ressource en eau. L'eau n'est plus une ressource illimitée. Ce n'est plus une ressource renouvelable, même ici, en Haute-France. Il ne s'agit pas d'ouvrir le robinet ou de plonger une petite pompe dans un ruisseau pour arroser un potager. Il s'agit d'organiser collectivement la défense d'un bien commun, menacé par un contexte climatique défavorable et une culture historique favorisant une forme d'accaparement. Finalement, préserver la ressource en eau face au changement climatique, c'est d'abord une affaire de démocratie, de dialogue et de coopération. C'est une transformation en profondeur de nos usages de l'eau sur un même territoire, en donnant une voix équitable à l'ensemble des acteurs. Et cela doit nécessairement inclure l'ensemble du vivant.
Pour gérer la dichotomie entre temps nécessaire pour le changement et urgence à agir, en fait, c'est ce travail en transversalité qui évite de céder au pessimisme.
J'ai envie de citer un proverbe de Benjamin Franklin, donc c'est pas nouveau. « Nul ne connaît la valeur de l'eau avant que le puits tarisse ». J'ai le sentiment justement que par rapport à ces défis qui sont face à nous aujourd'hui, que la sobriété justement va nous permettre collectivement de surmonter ces défis pour éviter de rentrer dans des conflits durs liés à la disponibilité de l'eau.
Après la petite quinzaine d'années depuis mes années d'études, là, quand je vois arriver les nouveaux, on se rend compte que... qu'il y a des forces vives qui arrivent, qui sont motivées, qui sont moteurs, et ça permet d'accélérer et d'avancer différemment.
Je m'appelle Camille, j'ai 30 ans, j'habite un petit village du nord de la France, et j'y vois maintenant un peu plus clair. Pendant un an, j'ai sillonné le micro à la main la région pour récolter des histoires. Les récits de celles et ceux qui connaissent les menaces qui pèsent sur notre territoire. Il n'y a pas de doute. Le changement climatique est en route. Et il charrie avec lui tout un cortège de bouleversements qui viennent secouer de façon de plus en plus violente nos lieux de vie, nos façons de vivre, nos convictions. Ce voyage m'a aussi appris que l'inaction n'est pas une option. Nous devons nous fixer un cap commun, celui de l'adaptation. S'adapter en s'appuyant sur la nature. S'adapter en restant souple avec des solutions sans regret. S'adapter en apprenant des autres, grâce aux coopérations que nous tissons entre les différents acteurs et actrices et les autres territoires. S'adapter de manière globale. Transformer nos modèles pour offrir à toutes et tous de meilleures conditions d'existence. S'adapter parce que nous en faisons le choix. Car c'est une formidable opportunité de repenser nos territoires, nos relations et nos façons de faire. Une opportunité d'écrire de nouvelles histoires. Histoire de s'adapter.
Nous arrivons au terme de ce voyage de 6 épisodes thématiques, une série à écouter et réécouter sur Audioblog et toutes vos plateformes d'écoute préférées. Histoire de s'adapter revient bientôt avec un nouveau format. Partez à la rencontre des territoires qui s'engagent sur les voies de l'adaptation. Le CERD, Centre Ressources du Développement Durable, est un groupement reconnu d'intérêt public. Depuis plus de 10 ans, il outille et accompagne toutes celles et ceux qui souhaitent adapter leur territoire aux impacts du changement climatique. Alors, pour aller plus loin, trouver de nouvelles ressources et de nouveaux outils, rendez-vous sur le site du CERD, cerdd.org. Merci à Isabelle Matikowski et Sarah Duvernay, ainsi qu'à l'ensemble des intervenants et intervenantes des épisodes précédents. Réalisation : La Traverse.